Marie-Julie.
Bonjour Jérémy.
Et bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour la formation des ministères du Réseau Antioche.
Nous allons débuter cette session avec le thème de l'évangélisation en France, présenté par Pascal Benaz et Philippe Montueux. Bonne écoute.
Bonjour à tous. Le titre que j'ai choisi, c'est « Les éléments d'une nouvelle rencontre missionnaire en France au XXIe siècle ». Alors, rencontre missionnaire, il faut que je précise ce que je veux dire par là. Ce n'est pas une réunion missionnaire, c'est réellement, vous savez, la mission, c'est au sens de l'évangélisation ici, c'est le sens de la mission que Jésus a démarrée, que Jésus a commencée et dans laquelle nous inscrivons. Et la rencontre missionnaire, vous savez, pour qu'il y ait une véritable rencontre d'évangélisation, il faut réellement que les personnes qui sont envoyées rencontrent les personnes qui sont ciblées. Il faut qu'il n'y ait pas simplement une information de données, mais il faut qu'il y ait une véritable rencontre humaine pour que l'évangélisation, pour que la mission puisse avoir lieu. Donc c'est dans ce sens-là, et j'aimerais vous proposer les éléments d'une nouvelle rencontre missionnaire. Il me semble que nous avons besoin de considérer qu'en tant qu'Église, nous avons besoin d'un nouvel élan missionnaire pour le pays et d'une nouvelle rencontre avec les personnes qui sont autour de nous. Et je vais essayer de vous montrer cela. Premièrement, le constat qu'on peut faire, je vais passer assez rapidement. Il y a de bonnes choses. On sait qu'il y a des églises qui sont en croissance, et on bénit le Seigneur pour ça. On sait qu'il y a des baptêmes qui ont lieu. Et si vous avez eu des baptêmes dans l'année, on se réjouit vraiment de tous les baptêmes qui ont eu lieu. Une plus grande ouverture pour l'évangéliser, Pascal l'a mentionné. Et puis la relative bonne santé des églises évangéliques en France, avec l'activité du CNEF. Des articles encore récemment dans un journal, un quotidien. J'ai vu deux articles sur des évangéliques, un article il y a quelques jours sur, vous savez, je n'ai pas retenu son nom, mais l'aumônier du sport, Joël Thibault, voilà. Un article très positif dans un journal, un quotidien national. Et puis, quelques temps avant, un autre article positif sur la croissance des évangéliques dans le même journal. Mais il y a aussi, et nous le savons, des véritable désert spirituel dans tout le pays. C'est-à-dire qu'il y a des régions où, pour trouver une église, il faut faire encore des dizaines, voire plusieurs dizaines de kilomètres pour trouver une église. Donc il y a vraiment des déserts spirituels. Il y a de grandes villes avec un nombre d'églises réduit, un pourcentage de chrétiens faible. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans une ville plusieurs églises, mais généralement, le nombre de personnes dans les églises est relativement faible. Donc, même si vous avez 5 églises, il y a 50 personnes par église, dans une ville de plusieurs milliers, voire même des millions de personnes, ça ne fait pas beaucoup. La situation dans les campagnes représente aussi un défi. Je ne reviens pas là-dessus, Pascal en a parlé. Mais surtout, et c'est surtout cela que j'aimerais, sur lequel j'aimerais attirer votre attention, il y a un grand nombre de Français qui considèrent l'Église ou même qui considèrent le christianisme comme des choses néfastes et comme des obstacles majeurs au progrès de la société. C'est-à-dire que pour eux, l'Église a été un facteur de répression pour empêcher l'être humain, pour empêcher les hommes, les êtres humains, d'être réellement libres. Hein ? Vous savez que le mot d'ordre de cette société, qu'on dise postmoderne ou de modernité tardive, c'est être libre. Comment je peux faire pour être libre? C'est ça le mot d'ordre de la société. Eh bien, il faut bien se rendre compte qu'il y a un pourcentage très important de nos contemporains en France qui voient l'Église comme néfaste parce que obstacle au progrès de la société. Et puis, il y a le poids de l'histoire de France. Ce n'est pas à négliger. J'aimerais vous renvoyer un article, c'est dans un des livres que j'ai amené, un article de Neil Blau, qui est un Américain, mais qui est en France depuis des décennies, et qui est qui était prof d'histoire de l'Église à Vaud. Il y a un excellent article sur le poids de l'histoire et dans l'inconscient collectif, le poids que toutes les casseroles que l'Église traîne en France, l'Église en général, agit dans l'inconscient des Français. Et puis, il y a aussi les positions des chrétiens sur plusieurs sujets éthiques, la sexualité, les questions de genre, le mariage pour tous, etc., qui sont perçues comme intolérantes et répressives du point de vue des droits et des libertés des individus. Il faut bien voir que la perception d'une majorité de Français, c'est ça par rapport à l'Église et par rapport donc à l'Évangile, par ricochet. Conclusion. Il faut bien se dire, et c'est une citation c'est un anglais, mais ça marche aussi pour la France, c'est qu'on peut dire que dans nos églises, nous ne cueillons que les fruits à portée de main. Vous comprenez l'image? C'est-à-dire que si vous passez dans un verger, vous pouvez prendre les fruits qui sont juste à portée de main, mais vous n'allez pas chercher les fruits qui sont en haut de la branche, qui sont de l'autre côté de l'arbre, etc. Et finalement, nous ne touchons qu'une minorité de Français dans l'effort d'évangélisation, dans l'effort missionnaire. C'est pour ça que je crois que nous devons réfléchir à comment est-ce que nous pouvons mettre les bases d'une nouvelle rencontre missionnaire. Et je pense que c'est possible. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ce constat? Bien, la réponse va de soi. Quelle réponse donc? La première réponse qu'on pourrait avoir, et c'est souvent ce que nous faisons en tant qu'Église, même d'une manière inconsciente, c'est qu'il y a un repli sur nous-mêmes et nous vivons l'Église quelque part comme un havre de paix, un endroit à part dans la société, une sous-culture qui n'a pas de rapport avec le reste ou très peu de rapport, ce qui est à moitié vrai. Parce que les chrétiens dans nos églises vivent dans les deux mondes. Et forcément, il y a un monde qui va prendre le dessus sur l'autre. Donc, la réponse, ça pourrait être de se dire, « Ouh là là, c'est trop compliqué d'aller chercher les fruits qui sont hors de portée. Restons entre nous. » C'est bien sûr pas la solution. Peut-être certains diraient, les miracles et les prodiges sont la réponse. Et je pose la question, sont-ils la réponse? Alors oui, dans un sens, oui, on a besoin de voir des signes et des prodiges. Amen. Mais dans les évangiles, les miracles sont toujours porteurs d'un message et sont toujours compris dans un message global qui est là et qui est le plus... Le message, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc on ne peut pas réduire l'évangélisation à l'espérance d'avoir des signes et des prodiges ou des miracles. Parce que sinon, on va le déconnecter du message. On doit être porteur d'un message beaucoup plus important pour nous. Et peut-être qu'on peut se poser la question, c'est si nous ne voyons pas autant de miracles que nous espérons, c'est peut-être que nous espérons que c'est notre bouée de sauvetage. D'avoir des miracles, si on n'a rien d'autre à proposer comme rencontre missionnaire, comme élan dans ce que Jésus a fait d'aller vers les êtres humains. Ou alors on peut relever le défi de démontrer la pertinence de l'Évangile à répondre aux besoins les plus profonds des êtres humains. Et je pense que c'est ça la réponse. C'est comment, en tant qu'Église et en tant que chrétien ou en tant que responsable spirituel, nous pouvons aller dans le sens de chercher à démontrer que l'Évangile répond aux besoins les plus profonds des êtres humains. On est convaincu de cela, n'est-ce pas? Peut-être pas, alors. On est convaincu, non? Que l'Évangile, c'est la réponse à toutes les questions existentielles que l'homme, que l'être humain peut se poser. Que les besoins les plus profonds trouvent leur réponse en Jésus. Mais on est souvent, notre message ou notre vie d'église est souvent déconnecté de ce qui représente les recherches. Faut pas croire, c'est vrai que ce que Pascal a dit, le 21e siècle et les gens sont peut-être, ils sont religieux. Regardez, allez voir à la FNAC, le rayon ésotérique a, je sais pas, doublé ou triplé ou quadruplé depuis. Donc, les gens sont cherchent quelque chose, et en fait, notre défi, c'est comment, dans notre vie d'église ou dans notre ministère, est-ce qu'on peut vraiment toucher les besoins ou la réponse aux besoins les plus profonds des êtres humains. La réponse est donc qu'il faut un nouvel engagement missionnaire, au sens d'aller à la rencontre des personnes qui ignorent l'Évangile ou même qui y sont hostiles. Et c'est un grand défi, mais si nous ne répondons pas à ce défi, l'évangélisation en France va rester avec une croissance très lente. C'est-à-dire, si nous prions pour le réveil, et j'espère que nous prions pour le réveil, c'est-à-dire, alors le réveil, c'est déjà le réveil de la foi dans notre cœur, c'est déjà vivre réellement le message que nous connaissons. Mais au-delà de ça, si nous prions pour qu'il y ait vraiment une arrivée massive de personnes qui se convertissent et qui entrent dans les églises, eh bien, nous ne pouvons pas faire l'économie de cette réflexion. Parce que sinon, si on se borne à cueillir les fruits qui sont à portée de main, c'est comme si on réduit énormément l'étang dans lequel on pêche. Là, on pêche pas dans la mer, on pêche dans un petit étang. Alors, les défis. Quels sont les défis que nous avons devant nous? Je me suis inspiré pour ces défis d'un petit livret que vous trouvez gratuitement en ligne d'un pasteur qui s'appelle Timothy Keller, pasteur américain, mais qui a une vraie réflexion sur l'évangélisation de l'Occident. Et je vous conseille de... Je peux essayer de retrouver le lien. C'est gratuit. Tu as le PDF. C'est gratuit et c'est très, très intéressant. Donc, les trois défis qu'il donne pour l'évangélisation de la France aujourd'hui, en tout cas de l'Occident. C'est la disparition de la croyance en un ordre sacré. C'est une culture numérique omniprésente, c'est-à-dire, je vais développer tout à l'heure, mais c'est-à-dire le fait que les choses passent par le numérique, passent par les réseaux sociaux, passent par cette culture. Et puis le défi des antagonismes politiques dans une société fracturée. Je n'ai pas besoin trop d'insister là-dessus parce que on a un exemple frappant. On l'a vécu en live ces derniers jours. Alors, disparition de la croyance en un ordre sacré. Je vais aller assez rapidement. Ça, on sait. Puis Pascal l'a abordé. La culture occidentale aujourd'hui est la première culture fondée sur un rejet de l'ordre sacré. C'est-à-dire qu'avant, que vous ayez des bouddhistes, des animistes, tout ce que vous voulez, il y avait la pensée, même si ces pensées s'opposaient, étaient en conflit, etc. Mais christianisme, islam, bouddhisme, hindouisme, etc. reposent sur l'idée qu'il y a dans l'univers un ordre sacré. La culture occidentale aujourd'hui, c'est la première culture basée sur le rejet de tout ordre sacré. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Tout est matériel, il n'y a pas de pensée qui transcende, il n'y a pas de transcendance dans la vision du monde que l'on a. Chacun peut choisir ses valeurs et inventer le sens de sa vie. On sait que ce n'est pas vrai, mais c'est quand même la réalité de nos contemporains. Le seul absolu moral est qu'on ne doit pas dire qu'il y a des absolus moraux. Ça, c'est c'est d'ailleurs un bon argument pour répondre aux questions ou aux objections du fait qu'on émet des absolus moraux. Bien, on en émet tous. Même ceux qui disent qu'il n'y en a pas émettent un absolu moral en disant qu'il n'y a pas d'absolu moraux. Enfin bref, je vous ai... Le deuxième défi qu'on a, c'est une culture numérique omniprésente. Le temps toujours plus élevé passé sur les réseaux sociaux. Ça a un effet parce que ça donne l'impression que ce qui est intérieur est plus réel que ce qui est extérieur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça donne l'impression que ce qui est extérieur est moins réel que ce qui est à l'intérieur, ce qui est dans les sentiments, ce qui est dans les émotions. C'est-à-dire que la réalité que les personnes autour de nous, et surtout les jeunes générations, c'est que le réel, ce qui est réel pour eux, c'est d'abord ce qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous avez toute cette pensée. Je me rappelle avoir vu une interview d'une chanteuse américaine très connue et qui parlait d'une chanson qu'elle avait écrite. Et le journaliste lui demandait « Mais quelle était votre pensée en écrivant cette chanson ?» Eh bien, le message que vous vouliez donner, et elle disait, le message que j'aimerais donner à toute personne, c'est « faites ce qu'il y a dans votre cœur ». Et c'est typique de la société postmoderne. C'est peu importe ton héritage, peu importe ta famille, peu importe ta culture, peu importe là où tu as grandi, fais ce qu'il y a dans ton cœur, t'occupe pas du reste. Donc, les réseaux sociaux renforcent cela parce que ce qui est réel, c'est ce qui se passe entre ce petit écran et moi. C'est ça qui construit le réel dans ma vie, la réalité. C'est la technologie qui aujourd'hui transmet les croyances. Il faut bien se rendre compte de ça. C'est que ce que les gens croient, ça n'a pas été transmis par leurs parents. Parce que dans une société où il n'y a pas de sens de la vie prédéterminé, eh bien, un père n'enseigne plus à son fils le sens de la vie. Si son fils demande quel est le sens de la vie, il a un grand silence, le fils, devant lui, parce que le père ne sait plus. Donc, où est-ce que les jeunes aujourd'hui vont trouver la transmission des croyances ? Eh bien, c'est au travers de la technologie et du numérique. Et puis, la technologie modifie la manière dont les croyances sont élaborées. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on construit la croyance ? Bon, je passe vite là-dessus. Le troisième défi, je vais aussi passer assez vite, c'est le défi des antagonismes politiques dans une société fracturée. Donc, on sait très bien qu'il y a une montée des extrémistes, de droite comme de gauche. Il y a le progressisme, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure, les gens qui pensent que l'être humain va de progrès en progrès et ne peut qu'aller vers un âge d'or. Et justement, la libération des carcans, des institutions telles que l'Église, etc., eh bien, c'est aller vers le progrès. Et puis, vous avez l'autre côté, ce qu'on appelle le populisme, c'est le fait de croire ce que le peuple croit. Et il faut se rendre compte que ce sont des idoles séculières. C'est-à-dire que le progressisme érige en idole la liberté individuelle et le populisme érige en idole la race et la nation. C'est pour ça qu'il faut être très prudent en tant que chrétien, surtout en tant que pasteur, en tant que ministère, dans la manière dont on va dire ce qu'on pense sur nos opinions politiques. Parce qu'il faut se rendre compte que ce sont des idoles séculières. C'est ce que les êtres humains, par exemple les Français aujourd'hui, regardez l'espérance qu'il y avait, l'attrait par rapport à ces élections. Pourquoi ? Parce que dans un coin de la tête, même s'ils n'y croient plus, dans un coin de la tête, ça peut être la solution pour changer notre vie. Et bien, c'est la définition d'une idole. Les deux sont séculières. Les deux pensées, progressisme et populisme, sont séculières. Le Dieu transcendant y est absent. Et c'est le créé et le terrestre qui est divinisé. C'est une citation donc de Tim Keller. Ça crée un danger de polarisation dans l'Église. Et la solution n'est pas dans un retrait, Mais je vais passer là-dessus parce que bon, ce n'est pas le point que j'aimerais souligner et je veux aller et rester dans les temps. Donc, il est indispensable de trouver les éléments d'une nouvelle rencontre missionnaire pour relever ces trois défis afin d'atteindre ceux qui ne sont pas à notre portée. Et j'aimerais vraiment vous convaincre du fait que la manière dont nous vivons l'Évangile en tant qu'Église aujourd'hui ne touchera jamais des personnes qui sont hostiles ou qui pensent que l'Évangile ou que l'Église est néfaste au progrès de l'être humain. Donc il faut un changement de paradigme, il faut un changement de mentalité dans notre manière de voir l'Église, de voir le ministère, pour que nous puissions répondre vraiment aux questions que les gens se posent. Parce que même s'ils ne croient pas que l'Évangile, s'ils croient que l'Évangile est un obstacle au progrès de l'être humain, néanmoins, les gens se posent des questions existentielles. Ils ont des vraies recherches, des vraies quêtes spirituelles. Mais si on ne change rien, nous n'allons faire que continuer à cueillir les fruits à portée de main. Alors, les réponses. La mauvaise réponse, c'est la stratégie du retrait de la culture ambiante. Ce retrait peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une forme culturelle, c'est-à-dire, finalement, on ne va parler que des sujets qui intéressent les chrétiens. C'est-à-dire, si vous prêchez sur la justification par la foi, sur... bref, si vous donnez des messages, des prédications qui ne s'adressent qu'exclusivement aux chrétiens, ça contribue à la fabrication d'une sous-culture où finalement on est bien entre nous. Et jamais on va aborder ou on va toucher les questions que les gens à l'extérieur se posent. Pourquoi c'est important? Vous allez me dire, mais les gens à l'extérieur, ils sont à l'extérieur. Pourquoi on doit aborder ça dans l'Église? On va le voir tout à l'heure. Ça peut être aussi une forme géographique de repli. Et il y a une tendance qui va avec l'évangélisation dans les campagnes, de dire, si on se retire à la campagne, ce sera mieux. Mais c'est une forme de repli sur soi aussi. Les résultats de ce repli sur soi, l'Église... c'est que l'Église donne des réponses à des questions que personne ne se pose. Et c'est ça le problème. Ou alors, l'Église donne des réponses qui renforcent le retrait des chrétiens en dehors de la société. C'est-à-dire, on va aborder des questions qui ne concernent que la vie chrétienne, entre guillemets. On pourrait même dire... l'Église donne des réponses qui poussent les chrétiens à être schizophrènes. Parce que néanmoins, si les chrétiens sont dans les églises, ils sont aussi dans le monde à l'extérieur, avec leur travail, avec leurs amis, etc. Et donc, on crée ou on peut créer un effet de double mentalité, et une mentalité dans l'Église, une mentalité à l'extérieur. Et ça rend l'évangélisation inefficace. C'est-à-dire que l'Église ne sera jamais, et je dis l'Église et les chrétiens ne seront jamais mobilisés pour aller trouver leurs voisins si notre vie d'Église reste dans une compréhension et dans une fabrication d'une sous-culture. Vous voyez, dire que le christianisme est une sous-culture, même il y a des produits, des achats, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un t-shirt chrétien sur lui, je n'en vois pas. Ah, si, il y a des gens qui dénoncent. Hein. Mais c'est typiquement le fait d'avoir, même jusqu'à des produits qui développent la culture de l'Église. Et il faut se poser des questions. Est-ce que c'est juste? Alors, garde ton t-shirt. Mais... c'est pour vous dire qu'on peut très vite construire une sous-culture où on ne parle que des choses qui finalement nous intéressent, mais qui n'intéressent personne d'autre. une bonne réponse. À l'opposé du repli sur soi, c'est réellement vivre une véritable rencontre missionnaire. Et cela exige deux attitudes, le fait de relier au lieu de se retirer et aussi de confronter, à l'inverse, d'assimiler ou de s'adapter à la culture. Les éléments possibles, et je terminerai par là, d'une rencontre missionnaire avec la culture française au XXIe siècle. Premièrement, l'attention. Comment amener les gens autour de nous à faire attention à l'Évangile alors qu'il n'est pas pour eux une solution pertinente pour leur vie? Comment est-ce qu'on peut attirer leur attention? La première étape, Pascal en a parlé, c'est de construire des relations interpersonnelles avec des non-chrétiens en initiant avec eux des relations amicales. Je ne reviens pas là-dessus, on en a parlé, je pense que vous êtes convaincus. Ça peut rester, il n'y a pas de souci. L'objectif, et c'est un objectif que nous pourrons avoir, c'est le vent de l'esprit, hein. C'est l'onction ça, hein, si vous voulez, hein. C'est comme ça. Peut-être qu'on peut se dire, en tant que responsable d'église, en tant que ministère dans les églises, est-ce qu'on peut avoir comme objectif de stimuler un plus grand pourcentage de chrétiens à adopter un style de vie missionnel? Vous voyez, on ne va pas prêcher de la même manière, on ne va pas enseigner de la même manière si on a ça comme objectif. On peut, parce qu'on en a parlé, des étapes de l'évangélisation en postmodernité. Il y a ce livre là, Rudy, qui est alors qui est en anglais, mais si vous lisez l'anglais, je vous conseille ce livre. Ça montre les étapes de conversion jusqu'à la conversion pour les gens d'aujourd'hui. Effectivement, avant de pouvoir écouter l'Évangile, vous savez la première étape, ce que c'est? C'est qu'un non-chrétien puisse faire confiance à un chrétien. Parce que certains ont une image tellement négative de l'Église que faire confiance à un chrétien, c'est déjà un problème. Le deuxième élément de cette rencontre, c'est l'attractivité. C'est-à-dire, donc premier objectif, essayer d'augmenter le pourcentage de chrétiens qui a vraiment un style de vie missionnel, c'est-à-dire qui va construire des relations avec les gens de son quartier, avec les gens autour de lui. Former les chrétiens à montrer l'incroyable attractivité de l'Évangile qui répond aux grandes questions de la vie. Et ça, je pense que c'est une chose que nous ne faisons pas assez, c'est-à-dire former les chrétiens pour que, déjà, ils soient convaincus que l'Évangile répond aux plus grandes questions de la vie, mais qu'ils soient capables de présenter l'Évangile à leurs amis au sujet des grandes questions de la vie. Je vous ai fait une liste, et simplement j'ai repris la liste que Tim Keller donne, et je vous redonnerai un papier avec cette liste, parce que je trouve que ça pourrait être une liste de thèmes de prédication intéressante. Un sens de la vie que même la souffrance ne peut enlever. Une satisfaction qui ne repose pas sur les circonstances. Une liberté qui ne réduit pas les relations à des transactions superficielles. Une identité qui ne repose pas sur nos performances ou sur l'exclusion des autres. Ça, c'est l'Évangile. Une voie pour pardonner qui a du sens. Une manière d'envisager l'avenir avec assurance et paix. Une explication de la notion du beau. On va en parler avec Claude ce matin, je ne sais pas où il est. Il est parti, mais le fait d'être engagé dans les arts, c'est une chose, à mon sens, qu'on ne doit pas négliger, qui est très importante, parce que c'est une voie d'accès aux personnes. Le beau pose un problème aux non-chrétiens. C'est vrai. Parce que tout vient. Oui, quand ils voient un coucher de soleil qui les touche dans leurs émotions, ils n'ont pas de réponse pour la beauté de ce coucher de soleil. La réponse, elle se trouve dans un Dieu créateur, mais ils ne savent pas. Une explication de la notion d'amour. Troisièmement, la démonstration, c'est former les chrétiens à répondre aux objections classiques et nouvelles que posent les gens d'aujourd'hui. Ça devrait faire partie de l'équipement que nous, en tant que ministère, on transmet aux croyants dans nos églises. Donc, augmenter le pourcentage de ceux qui ont un style de vie missionnel. Deuxièmement, c'était former les chrétiens à montrer l'attractivité de l'évangile. Donc, il faut les former pour cela. Et donc, il faut prêcher. Vous savez, les thèmes là, dont la liste était sur la diapo précédente, ce qui est bien, c'est que vous pouvez prêcher ça à des chrétiens comme à des non-chrétiens. Ça concerne tout le monde. La démonstration, c'est former les chrétiens à répondre aux objections classiques et nouvelles que posent les gens d'aujourd'hui. Comment un Dieu bon peut-il permettre la souffrance? J'ai lu un livre il y a quelque temps, écrit par un philosophe athée et qui fait l'apologie de l'athéisme. Et je me suis dit, waouh, si je rencontre ce gars-là pour lui témoigner de ma foi, je suis mal. Parce que les arguments, la démonstration, même si ça m'a pas du tout convaincu, mais en même temps, je me suis dit, mais je n'ai pas les armes pour parler de l'existence de la souffrance dans le monde, de l'existence du mal, etc. Et ça, je pense que c'est des choses qu'on doit... il me semble que c'est important qu'en tant que ministère, on transmette ça dans l'Église. Ça fait partie, Éphésiens 4, 11, d'équiper les saints. Est-ce qu'on équipe les saints pour l'évangélisation en France aujourd'hui? Il me semble qu'on a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là. Par exemple, la fiabilité de la Bible par rapport à la science. Il y a beaucoup de questions, si on vous parlait avec un non-chrétien, par rapport à cela. Les questions autour de l'histoire de l'Église, des injustices, etc. Les questions autour du genre, des personnes LGBT, je pense que c'est des domaines où on doit être à la pointe de la connaissance. Enfin, la conviction. Former les chrétiens à présenter l'Évangile avec conviction, pertinence, en respectant ces trois aspects. Donc le salut appartient au Seigneur, il y a toujours une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est toujours, en fait, vous essayez par vous-même et vous n'y arrivez pas. Et la bonne nouvelle, c'est vous pouvez, non pas par vos propres efforts, mais vous pouvez être sauvé par Christ. Dans la culture moderne tardive, c'est-à-dire dans notre culture aujourd'hui, le récit fondamental qui est enseigné, transmis par les réseaux, par les films, par les séries, par toutes les choses, c'est le sens de la vie consiste à être libre. C'est ça le message, le récit fondamental. La présentation de l'Évangile peut montrer une mauvaise nouvelle. Vous voulez être libre, mais ce pourquoi vous vivez vous asservira. Il y a une chanson célèbre de Bob Dylan qui dit « Tu dois servir un maître ». Ça sera soit le Seigneur, soit quelqu'un d'autre, mais tu dois servir un maître. Et la satisfaction profonde que vous recherchez est insaisissable. Et c'est souvent le témoignage et la réalité de la vie des gens. Ils ont espéré, regardez avec les élections, certains ont encore espéré que la société allait changer. On va les ramasser comment dans un mois, dans deux mois, parce qu'il n'y a rien qui va bouger. Leur vie ne va pas changer et leur bonheur ne va surtout pas augmenter. Mais c'est typique de cette pensée, de cette mauvaise nouvelle, que l'homme cherche à satisfaire son bonheur et jamais il n'y arrive sans Christ. La présentation de l'Évangile peut montrer aussi la bonne nouvelle. À la croix, Jésus a renversé la dynamique des puissances du monde en abandonnant la domination pour servir. L'Évangile est unique pour cela. Il n'y a que dans l'Évangile de Jésus où il y a cette approche où le Dieu Tout-Puissant s'abaisse pour être jusqu'à un esclave et mourir sur la croix pour servir. C'est un message extraordinaire. Si on a la capacité de l'exprimer d'une manière qui touche les gens de l'extérieur, c'est un message mais qui est radical. L'identité que Dieu nous donne est incomparable aux autres car elle n'est pas basée sur nos échecs ou nos réussites, sur nos incapacités ou nos capacités, sur nos hauts ou sur nos bas. C'est aussi un message extraordinaire. Les gens voient leur valeur en fonction de leur performance, en fonction de leur capacité, en fonction de leur statut social, etc. Conclusion. Notre stratégie et notre rôle en tant que ministère et responsable de communauté devraient être fournir aux chrétiens et aux églises les éléments permettant leur témoignage en France au XXIe siècle. Il me semble que si on ressort quelque chose de cette intervention, c'est de commencer à réfléchir comment dans ma vie d'église, comment est-ce que dans mon ministère, comment est-ce que dans mon ministère de prédication, d'enseignement, de petits groupes, etc., comment est-ce que je peux équiper réellement les chrétiens à être efficaces dans l'évangélisation aujourd'hui en France. On peut aussi organiser des événements, dans un deuxième temps, qui peuvent aider les gens à découvrir l'attractivité de l'évangile. C'est-à-dire que les campagnes d'évangélisation, j'allais dire à l'ancienne, présupposaient que les gens avaient un cadre, savaient à peu près qu'est-ce qu'on entendait par Dieu, connaissaient à peu près Jésus, savaient à peu près une idée de ce qu'est le péché. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, montrer en communauté l'attractivité de l'évangile avec des gens qui s'aiment, qui vivent ensemble, alors que leur horizon est différent, leur culture est différente, etc., c'est un témoignage extraordinaire. Démontrer l'évangile vécu en communauté, mener une vraie réflexion pour penser notre témoignage en tant qu'Église, pour rendre visibles nos convictions.
Cette session est maintenant terminée. Nous vous invitons à écouter la suivante.